Chapitre 9. Maison maternelle. Étravérin était alors Kaempra du clan du blaireau. Ses navires filaient sur la mer, ses guerriers vainquaient, et il rapportait de ses pillages de l'eau-de-vie, de l'argent et des outils de fer. Il avait quasiment l'aura d'un héros quand il humilia son clan. Il désirait une femme du clan de la mouette. Il se rendit à la maison de ses mères avec des présents, mais elle les refusa. Sa sœur les accepta, et il coucha avec elle, mais il demeura insatisfait. Il partit piller une année durant et revint à la maison maternelle du blaireau, les cales remplies de richesses, mais sans fierté au cœur car une convoitise ignoble le rongeait. Bon combattant, ses guerriers n'en étaient pas moins écervelés, car ils l'écoutèrent quand il leur ordonna d'attaquer la maison des mères de la mouette. Les hommes du clan avaient pris la mer et les femmes vaquaient aux champs quand les navires des travérins abordèrent leurs côtes. Le Kaempra et ses troupes tuèrent les vieux et quelques jeunes presque adultes, puis, malgré une résistance farouche, ils prirent les femmes à même la terre. Certaines préférèrent la mort au viol. Et Travérin resta 17 jours, et chaque jour, il imposa son corps à Serferet, la fille du clan de la mouette, au point qu'elle en mourut. Alors tous repartirent et prirent la route de leur propre maison maternelle. La lune changea, et les mères du blaireau apprirent ce que leur Kaempra avait fait. Submergées de honte, elles chassèrent leurs hommes de leur terre et leur défendirent de jamais revenir. Elles livrèrent 17 de leurs fils au clan de la mouette, afin qu'il en fît ce que bon lui semblait, en réparation du mal causé par Étravérin. Et les maisons maternelles de tous les clans interdirent de toute terre le Kaempra et ses hommes, et elles condamnèrent ceux qui les aideraient à partager leur sort. En moins d'une année, l'océan les dévora, ses guerriers et lui, et le clan de la mouette se servit des fils de leur sœur qu'il avait reçus en expiation, non comme esclave, mais comme combattant, pour protéger ses côtes, et comme mâle, pour donner de nouveaux fils et filles au clan. Et la paix revint entre les femmes des maisons des mères. Conte moral outrilien, d'après le barde Ombir. Le lendemain, nous embarquâmes pour l'île de Maïlé. Le prince et Imbre se présentèrent devant l'assemblée des Kaempra, pour lui annoncer leur décision. Devoir fit un bref discours où il déclarait avoir résolu de considérer le conflit comme du ressort du Hedgurd. En tant qu'homme, il ne pouvait revenir sur la parole qu'il avait donnée, mais il voulait laisser aux chefs de clan le temps de discuter du défi et de s'entendre sur leur volonté commune. Il parla avec calme et dignité, ainsi que me l'apprit Imbre par la suite, et en concédant que seul le Hedgurd était habilité à régler la question, il apaisa, semble-t-il, nombre de sensibilités froissées. Même l'aigle parut favorablement impressionné, répondant qu'un homme prêt à relever un défi de front méritait le respect, d'où qu'il fût originaire. L'entourage princier apprit la nouvelle du départ avec des degrés divers de surprise et de consternation. On la lui présenta comme un petit changement de programme. D'ailleurs, la plupart des nobles n'avaient pas prévu d'accompagner le prince à la maison maternelle de sa fiancée. On leur avait dit, à Castelserre, qu'il serait difficile d'y accueillir une trop grande délégation. Leur projet s'arrêtait donc à séjourner à Zilig et y nouer des contacts en vue de futures relations marchandes. Demeurer sur Nuérin et rechercher des partenaires commerciaux suffisait amplement au bonheur de la majorité d'entre eux. Arkon Sangrépé, Kaempra du clan du sanglier et père de la Narchesca, nous assura discrètement qu'il resterait sur place avec ses guerriers afin de veiller au plaisant déroulement de leur séjour et de gagner le Hedgurd à notre cause. Imbre me révéla plus tard qu'il avait fortement incité nos nobles à continuer à profiter de l'hospitalité de la maison forte du sanglier plutôt que de s'installer dans les auberges de la ville. Il leur avait aussi recommandé d'arborer leurs emblèmes héraldiques personnels quand ils sortaient pour se mêler aux Outriliens, à l'instar des membres des clans qui affichaient leurs symboles animaux. Je doute, en revanche, qu'il leur eût expliqué qu'ils garantiraient mieux leur sécurité en ne laissant pas supposer qu'ils appartenaient au clan du cerf loin-voyant, ainsi que les Outréliens désignaient la famille du prince. Le Cartanier était un navire d'outre-mer, beaucoup moins confortable que le Fortune de Vierge. Il dansait sur les vagues, comme je l'observais en regardant les passagers embarqués, mais son faible tirant d'eau le rendait plus propre à traverser les chenaux qui séparaient les îles que la coque profonde du Fortune. Au jusant, m'avait-on dit, on pouvait à peine franchir certains de ces chenaux, et lors de marées basses, qui revenaient seulement une ou deux fois l'an, il était possible de les passer à pied. Nous devions emprunter plusieurs de ces détroits avant de retrouver la pleine mer et de mettre le cap sur l'île natale de la Narcheska et son village de Vuisling. J'avais peine à imposer pareille cruauté à l'our. Je le laissais dormir aussi longtemps que possible avant de le réveiller et de lui présenter un repas chaud préparé à partir d'éléments familiers apportés du Fortune de Vierge. Je l'encourageais à bien se restaurer en ne lui parlant que de choses agréables. Je lui tus qu'un nouveau trajet en mer nous attendait. Il rechigna à faire sa toilette et à s'habiller. Il aurait préféré retourner au lit, et j'aurais aimé le lui permettre, car c'eût été le mieux pour sa santé. Mais nous ne pouvions sans danger le laisser à Zilig. Même lorsque nous parvînmes au quai, où se trouvaient réunis la garde princière, le clan de Vif, Imbre et le prince de Voir, et que nous vîmes la cargaison de présents de fiançailles qu'on montait à bord du Cartanier, l'our crut à une simple promenade matinale. Voyant le navire amarré le long de l'appontement, je songeais, lugubre, qu'au moins l'embarquement ne poserait pas de difficultés. Je me trompais. Le petit homme regarda d'un air impavide nos compagnons emprunter la passerelle pour gagner le pont. Mais, quand son tour vint, il refusa tout net d'avancer.
« Non !»«
Tu ne veux pas voir le navire autrilien, l'our ? Tout le monde le visite. » Il paraît qu'il est très différent du nôtre. Allons-y. » Il me regarda un instant sans rien dire. Puis il répéta
« Non. »
Il commençait à plisser ses petits yeux d'un air méfiant. Il n'était plus temps d'user de subterfuges. « L'our, il faut monter à bord. Le bateau ne va pas tarder à partir pour conduire le prince chez la Narcheska. Nous devons le suivre. » L'activité du quai avait cessé. Tout était prêt pour le départ. On n'attendait plus que nous. Les matelots des autres navires et les passants dévisageaient l'our curieusement, avec plus ou moins de répulsion devant sa différence. Les hommes du Cartanier voulaient retirer les planches de la passerelle et jeter les amarres. Immobile, ils nous observaient avec une expression contrariée. Je sentis que nous les humilions par notre seule présence. Ne pouvions-nous pas donc monter tout simplement et disparaître dans l'entrepont? Il fallait agir. Je saisis fermement mon compagnon par le poignet. « L'our, il faut embarquer. »«
Non !»
hurla-t-il, en me frappant véhément de sa main libre. Et une onde d'art de peur mêlée de rage me frappa de plein fouet. Je m'écartai de lui en chancelant, ce qui me valut un éclat de rire général de ceux qui assistaient à la scène. De fait, il devait leur paraître étrange que les gifles effrayées d'un simple d'esprit eussent failli me jeter à genoux. Je n'aime pas me remémorer ce qui suivit. Je n'avais pas le choix. Je devais employer la force, mais sa terreur ne lui laissait pas le choix non plus. Nous nous affrontâmes sur le quai. Ma taille et ma force supérieure, ainsi que la solidité de mes murailles mentales, opposées à son art et à ses capacités limitées de combattant. Imbre et Devoir perçurent aussitôt la situation où je me trouvais naturellement. Je sentis le prince tenter de calmer l'our, mais la brume rouge de la fureur isolait le petit homme aussi efficacement que les meilleurs remparts d'art. Je ne captais pas la moindre trace de la présence du vieil assassin. Ses efforts de la veille avaient dû l'épuiser. J'agrippai l'our dans l'intention de le soulever et de le transporter à bord, mais son arme submergea. Le contact direct de ma peau sur la sienne me rendait vulnérable. Il projeta sa peur sur moi, et je crus mouiller mes chausses sous l'effet de la terreur qu'il suscita en moi. D'anciens souvenirs d'instants où la gueule de la mort avait failli se refermer sur moi jaillir dans mon esprit. Je sentis les dents d'un forgisé s'enfoncer à la base de mon cou et une flèche se planter dans mon dos. J'avais jeté l'our sur mon épaule et je tombai à genoux sous le poids de son épouvante, plus que sous celui de son corps. Les spectateurs s'esclaffèrent à nouveau. L'our m'échappa, puis s'arrêta et se mit à pleurer, convulsé de sanglots, poussant des gémissements inarticulés, réduit aux abois, incapable de fuir, car un cercle de badauds moqueurs nous cernait à présent. Les railleries croissantes me meurtrissaient mieux que les coups de l'our. Je ne pouvais me saisir de lui sans risquer l'intégrité de mes murailles, et je n'osais pas les ouvrir à son déchaînement furieux pour employer mon art dans toute sa mesure. Je m'efforçais donc futilement de le pousser à monter à bord en lui barrant le chemin chaque fois qu'il prenait son élan et tentait de me déborder pour s'enfuir. Je m'avançais vers lui, il reculait vers la passerelle, et l'anneau de spectateur s'écartait, puis il s'élançait vers moi, les mains tendues, sachant que s'il me touchait, mes remparts s'effondreraient et je devais battre en retraite. Pendant ce temps, les hommes riaient aux éclats et criaient à leurs camarades, dans leur langue rude, de venir voir un étranger déduché, incapable de venir à bout d'un simple d'esprit. Ce fut Tram qui, pour finir, me tira d'affaire. Peut-être les exclamations des matelots, du cartanier, l'avaient-elles amené au bastingage. Le grand marin se fraya un chemin parmi les badauds qui encombraient la passerelle et nous rejoignit. « Lourd, lourd, lourd !» dit-il d'un ton apaisant. « Allons, mon ami, ne t'agite pas ainsi. Cela ne sert à rien. » Je savais qu'on pouvait employer le vif pour repousser quelqu'un. Qui n'a jamais échappé d'un bond au croc d'un chien ou évité de justesse le coup de griffe d'un chat? Ce n'est pas la menace seule qui nous oblige à reculer, mais la colère de l'animal qui rejette l'adversaire en arrière. Pour un homme doué du vif, apprendre à repousser est aussi instinctif que fuir devant le danger. Mais je ne m'étais jamais arrêté à songer qu'il pût exister une force complémentaire qui calmait et attirait. Je ne connaissais aucun terme pour désigner ce que Tram émettait vers Lourd. Cela ne m'était pas destiné, mais j'en captais les échos. Je me dominais, repris mon sang-froid et laissai ralentir les battements de mon cœur. Sans que ma volonté eût à intervenir, mes épaules retombèrent et mes mâchoires se décrispèrent. Je vis une expression étonnée envahir les traits de Lourd. Sa bouche s'entr'ouvrit et sa langue, jamais complètement rentrée, pointa davantage, tandis que ses petits yeux se fermaient à demi. D'une voix douce, Tram dit « Du calme, mon ami, ne t'affole pas, viens, suis-moi. » Les chatons prennent un air particulier quand leur mère les saisit par la nuque pour les déplacer, et je reconnus cet air sur la face de Lourd lorsque la grande main de Tram se posa sur son bras. « Ne fais pas attention à ce qui se passe autour de toi, » conseilla le marin, « fixe les yeux sur moi. » Et Lourd obéit, le regard levé vers Tram. Le maître de vif le conduisit à bord du navire sans plus de mal qu'un gamin menant un taureau par l'anneau de son mufle. Je restai tremblant, le dos inondé de sueur. Je rougis sous les colibets que les matelots me lancèrent quand j'embarquai à mon tour. La plupart connaissaient des rudiments de la langue des Siduchés, et ils s'en servaient à escient afin que je n'ignorasse pas leur mépris. Le sang qui affluait à mes joues m'interdisait de feindre de ne pas les comprendre, et je suivis Tram, plein d'une colère impuissante. J'entendis les planches qu'on relevait derrière moi dès que j'eus franchi le bastingage. Sans me retourner, j'emboîtai le pas à Tram et Lourd, qui se dirigeaient vers une espèce de tente dressée sur le pont. Les aménagements étaient beaucoup plus sommaires que ceux du Fortune de Vierge. L'avant-pont comportait une cabine en bois, semblable à celle dont j'avais l'habitude sur nos vaisseaux, divisée, je l'appris plus tard, en deux grands compartiments, le plus vaste réservé aux princes et à Imbre, tandis que dans l'autre s'entassait le clan de Vif. L'abri provisoire monté sur le pont était destiné aux gardes. Il se composait de larges pans de cuir épais, tendus sur des perches, l'ensemble étant fixé à des chevilles plantées dans le planchéiage. Cette installation représentait une concession à notre sensibilité d'étranger. Pour leur part, les Outriliens préféraient leur pont dégagé, plus pratique pour aller du fret ou combattre. Un coup d'œil à l'expression des gardes suffit à me convaincre que Lourd ne recevrait guère bon accueil parmi eux. Et, après ma piètre prestation sur le quai, ils ne me tenaient pas en plus haute estime. Tram s'efforçait de convaincre le petit homme de s'asseoir sur un des coffres de marin à portée du Fortune de Vierge. « Non, lui dis-je à mi-voix, le prince préfère que Lourd loge près de lui. Il faut le conduire à la petite cabine. » « Mais on y est encore plus à l'étroit qu'ici, » protesta Tram. Je secouai la tête. « La petite cabine, » répétai-je, et il rendit les armes. Lourd l'accompagna sans se départir de son expression de confiance aveugle, et je les suivis, épuisé comme si j'avais passé la matinée à m'exercer à l'épée. Je me rendis compte plus tard que Tram avait installé le simple d'esprit sur sa propre paillasse. Civil était assis sur la sienne, plus courte, son marguet grondant sur les genoux. Niel, le ménestrel, examinait d'un air désolé une petite harpe dont trois cordes étaient cassées. Lest évitait mon regard. Je percevais l'effarement qu'il ressentait à voir un sous-homme partager son territoire. Il régnait un silence opaque dans la pièce exiguë. Une fois lourd étendu sur la couche, Tram essuya son front luisant de sueur d'une main calleuse. Le simple d'esprit nous dévisagea un moment, d'un air hébété, puis il ferma les yeux avec une lassitude d'enfant. Sa respiration se fit rauque et il sombra dans le sommeil. Après les coups qu'il m'avait portés, je n'aspirais qu'à l'y rejoindre, mais Tram me prit par le bras.
« Venez, il faut que nous parlions. »
J'aurais refusé si j'en avais eu les moyens, mais quand sa main se posa sur mon épaule, toute méfiance m'abandonna, et je me laissai mener sur le pont, à l'air libre. Les matelots éclatèrent en cris moqueurs à ma réapparition, mais Tram feignit de ne rien entendre et me conduisit à une lisse.
« Tenez, »
dit-il en tirant de sa poche un flacon de cuir. Une odeur d'eau-de-vie frappa mes narines quand il le déboucha.
« Prenez-en une lampée, puis respirez un grand coup. On dirait qu'on vous a saigné à blanc. »
Je bus une gorgée d'alcool et c'est en sentant sa chaleur se répandre en moi que je me rendis compte combien j'en avais besoin.
« Vite !»
L'appel inquiet du prince me parvint comme un murmure. Je pris soudain conscience de l'intensité avec laquelle je maintenais mes murailles dressées. Je les baissai prudemment et répondis à devoir.
« Je vais bien. Tram a calmé lourd. »«
Oui, c'est exact, mais pourquoi me le dire ?»«
Laissez-moi un instant, mon prince, que je me ressaisisse. »
En même temps que je l'artisais, j'avais prononcé à voix haute ma réponse à devoir et je ne m'en étais même pas aperçu.
« Excusez-moi, je n'ai pas encore tous mes esprits, je crois. »
« En effet, mais je n'en comprends pas la raison. Toutefois, j'ai quelques hypothèses là-dessus. Le simple d'esprit est très important pour le prince, n'est-ce pas? Et c'est en rapport avec le fait qu'il a pu empêcher un guerrier dans la force de l'âge de l'obliger à faire ce qu'il ne voulait pas. Pourquoi évitiez-vous son contact? Je l'ai touché, et il ne m'est rien arrivé. »
Je lui rendis son flacon. « Je n'ai pas le droit d'en parler, » dis-je sans détour.
« Je vois. »
Il but une gorgée d'eau-de-vie, puis leva les yeux vers le ciel d'un air songeur. Risque décrivit sans hâte un cercle autour du navire. Elle nous attendait. Une voile s'épanouit soudain sur le mât. Aussitôt, le vent la gonfla, et je sentis le bateau plonger de l'étrave, puis prendre de la vitesse.
« Le trajet sera court, paraît-il. 3 jours, 4 au plus. » Si nous avions embarqué sur le Fortune de Vierge, il aurait fallu contourner tout le semi-dille, mouiller dans un port plus loin et emprunter un autre bâtiment à faible tirant d'eau pour rallier Whistling.
J'acquiesçais sans savoir s'il avait raison ou non. Peut-être tenait-il ses renseignements de son oiseau, ou, plus probablement, de conversations entre matelots qu'il avait surprises, l'oreille toujours aux aguets. Comme si la question découlait logiquement de ses derniers propos, il demanda.
« Si j'essayais de deviner ce secret dont vous ne devez pas parler, accepteriez-vous de me dire si je brûle ou non ?»
Je poussai un petit soupir. L'affrontement passé, je mesurais l'exténuation dans laquelle il me laissait, et la puissance de l'ours quand sa peur et sa colère l'acculaient à l'employé. J'espérais qu'il n'avait pas puisé davantage dans ses réserves qu'il ne pouvait se le permettre. Sa maladie avait déjà mangé une grande partie de ses forces, et il s'était cru engagé avec moi dans un combat où sa vie était en jeu. Je n'en avais pas le moindre doute. Je me sentis tout à coup rongé d'angoisse pour lui.
« Tom !»
fit Tram, et avec un sursaut, je me rappelais sa question. « Je n'ai pas le droit d'en parler, » répétai-je d'un ton obstiné. Le désespoir sourdait en moi comme le sang d'une blessure. Il provenait de lourd, je le savais, mais le savoir n'y changeait rien. Il faudrait que je m'arrange pour l'étouffer avant qu'il n'affecte le reste du bateau.
« Pouvez-vous vous débrouiller seul ?»
demanda le prince. J'acquiesçai, davantage pour confirmer que j'avais bien entendu sa prière que pour affirmer être capable de l'exaucer. Tram me tendait à nouveau son flacon. Je l'acceptai. On avalait une grande lampée, puis déclarait. Je dois retourner auprès de l'ours. Mieux vaut qu'il ne reste pas seul.
« Je comprends, » dit-il en prenant la gourde de cuir. « Mais j'ignore si vous jouez pour lui le rôle de protecteur ou de geôlier. En tout cas, Tom, prévenez-moi quand vous estimerez pouvoir sans risque le laisser à ma garde. À votre mine, un peu de repos ne vous ferait pas de mal, à vous non plus. »
Je hochai la tête en silence et regagnai la petite cabine allouée au clan de Vif. Tous ses occupants l'avaient abandonnée, sans doute incommodés par la marée montante d'émotions que diffusait l'ours. Il dormait, non parce qu'il était d'humeur paisible, mais d'épuisement. J'observais son visage et j'y vis une simplicité qui n'avait rien d'enfantin, ni même de simple. Il avait les joues trop rouges et la sueur perlait à son front. La fièvre le reprenait et rendait sa respiration rauque. Je m'assis par terre à côté de son lit. J'avais honte de ce que nous lui infligions. Nous agissions mal, et nous le savions tous, Humbre, Devoir et moi. Enfin, je cédai à la fatigue et m'étendis près de lui. Trois respirations, et je me concentrai, rassemblant mon art. Je fermai les yeux et posai une main légère sur l'ours pour intensifier notre liaison. Je pensais trouver ses murailles dressées, mais non, il était sans défense. Je me glissais dans un rêve où un chaton perdu pataugeait frénétiquement dans une mer déchaînée. À l'imitation d'Ortie, je le sortis de l'eau et le ramenai au chariot, où je le déposais sur le coussin au milieu du lit. Puis, je lui assurai qu'il ne risquait rien et sentis son angoisse s'apaiser légèrement. Pourtant, il me reconnut malgré l'illusion du rêve.
« C'est toi qui m'as obligé !»
s'écria soudain le chaton.
« Tu m'as obligé à monter dans le bateau !»
Je m'attendais à de la colère, à de la méfiance, voire à une attaque à la suite de ses paroles, mais ce fut bien pire. Il éclata en sanglots. Le chaton se mit à pleurer inconsolablement, avec une voix aiguë d'enfant, et je sentis l'abîme de déception qui s'était ouvert en lui devant ma trahison, alors qu'il me faisait confiance. Je m'approchai et le serrai contre moi, mais ses pleurs continuèrent sans que je pusse les calmer, car j'étais le responsable de sa peine. L'apparition d'Ortie me prit par surprise. Nous n'étions pas la nuit, et elle ne dormait sûrement pas. Or, j'avais toujours cru qu'elle ne pouvait artiser que dans son sommeil. Supposition arbitraire, certes, mais qui était la mienne. Comme, assis par terre, je berçais la petite créature qui était l'ours, je sentis sa présence à mes côtés. « Donne-le-moi. » dit-elle du ton las d'une femme devant l'incompétence d'un homme. Avec un soulagement coupable, je la laissai s'emparer du chaton. Je m'estompai au fond du rêve et perçus la détente qui accompagna chez l'ours mon éloignement. J'éprouvais du chagrin que ma présence le troublât à ce point, mais je ne pouvais le lui reprocher. Peu après, je me retrouvai assis au pied de la tour fondue. Les environs avaient un aspect lugubre. Les ronces mortes recouvraient toute la colline alentour, et on n'entendait que le vent qui murmurait dans leurs tiges desséchées. J'attendis Ortie.
« Pourquoi ce décor ? »
fit-elle, quand elle arriva enfin en désignant d'un geste la désolation qui nous entourait. « Je le trouve de circonstance, » répondis-je d'un ton accablé. Elle eut un haussement d'épaule méprisant, puis, d'un mouvement de la main, elle transforma les ronces en hautes herbes vertes. La tour se changea en cercle de pierres effritées, recouvertes de plantes grimpantes en fleurs. Elle s'installa sur un bloc de rocher chauffé par le soleil, rabattit sa jupe rouge sur ses pieds nus et demanda
« Tu prends ainsi toujours tout au tragique ?»«
Sans doute, oui.
Ce doit être épuisant pour ton entourage. À part toi, je ne connais qu'une seule personne aussi soumise à ses émotions. »
À savoir,
mon père, il est rentré hier à la maison.
Je respirai profondément et m'efforçai de prendre un ton détaché. Alors ?
Alors, il est allé au château de Castelserre. C'est tout ce qu'il nous a révélé. Il a l'air d'avoir vieilli de 10 ans, et pourtant, parfois, je le surprends à parcourir une pièce du regard en souriant. Malgré son voile sur les yeux, il ne cesse pas de me dévisager comme s'il ne m'avait jamais vu. Quant à maman, elle dit avoir l'impression qu'il lui fait constamment ses adieux. Il s'approche d'elle, la prend dans ses bras et la tient contre lui, comme si on risquait de la lui arracher. J'ai du mal à décrire son attitude. On a le sentiment qu'il a enfin terminé une tâche accablante, mais il se conduit aussi comme quelqu'un qui se prépare à un long voyage.
Que t'a-t-il raconté ? J'essayais d'empêcher mon angoisse de se diffuser autour de moi.
Rien. Et pas davantage à ma mère, à ce qu'elle prétend. Il a rapporté des cadeaux pour chacun à son retour. Des pantins pour mes petits frères et des casse-têtes en bois exquisément sculptés pour l'écran. Pour ma mère et moi, de petits coffrets qui contenaient des colliers de perles en bois. Non, pas à peine dépolis, mais taillés, chacune comme un bijou. Et une jument, la plus jolie que j'aie jamais vue.
Je me tus, sachant ce qui suivrait et formant pourtant le vœu fervent qu'Orti se tue.
Lui-même porte maintenant un clou d'oreille, une sphère sculptée dans le bois. Jamais je ne l'avais vu porter ce genre d'ornement. J'ignorais même qu'il avait le lobe percé.
Burik et Sire Doré avaient-ils parlé ou bien le fou avait-il simplement confié ses présents à la reine Kétriken pour qu'elle les remette à l'ancien maître des écuries? Tant de questions dont je ne pouvais poser aucune.
« À quoi es-tu occupé ? » demandai-je. « À tremper des chandelles, le travail le plus idiot et le plus barbant que je connaisse. »
Elle se tut un instant. Puis elle reprit.
« J'ai un message pour toi. »
Mon cœur manqua à battement. « Ah !»
Si je rêve à nouveau du loup, je dois lui dire de la part de mon père « Tu aurais dû revenir il y a longtemps. »
Réponds-lui que... Mille possibilités traversèrent mon esprit. Que dire à un homme que je n'avais pas vu depuis 16 ans? Qu'il n'avait rien à craindre, que je ne voulais le dépouiller de rien. Que j'aimais toujours comme j'avais toujours aimé. Non, pas cela. Que je lui pardonnais. Non, car il ne m'avait jamais fait de mal exprès. Je ne ferais qu'alourdir le fardeau dont il chargeait déjà sa conscience. J'avais 1000 messages à lui transmettre, et aucun que j'eusse le courage de confier à Orti.
« Réponds-lui que ?» fit-elle pour me relancer.
« Réponds-lui que je ne sais que dire, et que je lui suis reconnaissant, comme depuis de longues années. » C'était très insuffisant, mais je me retins d'ajouter rien. Je refusais la précipitation. Je réfléchirai longuement, mûrement, avant de donner à Orti un message pour Burik. J'ignorais ce qu'elle savait ou avait deviné. J'ignorais même ce que Burik connaissait de mon existence après notre séparation. Mieux valait regretter de n'avoir pas prononcé certaines paroles que pleurer sur celles qu'on n'avait pas su retenir.
« Qui es-tu ? »
Je lui devais au moins de lui fournir un nom. Un seul me parut convenir. Changeur. Je m'appelle Changeur. Elle hocha la tête, déçue et contente à la fois. Ailleurs, en un autre temps, mon vif m'avertit de nouvelles présences. Je me glissais hors du rêve et elle me laissa aller à contre-cœur. Je regagnais ma chair et je gardais les yeux fermés tout en ouvrant mes autres sens. Je me trouvais dans la cabine et le petit homme dont j'avais la charge respirait lourdement près de moi. Je sentis l'odeur de l'huile dont le ménestrel frottait le bois de sa harpe, puis j'entendis l'Est murmurer.
« Pourquoi dort-il ? »
« Je ne dors pas, » fis-je à mi-voix. J'ôtai doucement ma main de la poitrine de l'ours afin de ne pas l'éveiller, puis me redressai lentement. J'apaisais lourd, c'est tout. Il reste très malade. Je regrette que nous ayons dû l'obliger à nous suivre. L'Est m'observait, une expression étrange sur le visage. Niel se déplaçait sans bruit en frottant d'huile le cadre de sa harpe réparée. Je me levais en gardant la tête courbée à cause du plafond bas et regardais le fils de Burik. Il ne souhaitait rien tant que se trouvait loin de moi, mais j'avais un devoir envers lui. « Es-tu occupé en ce moment ? » lui demandai-je. Il se tourna vers le ménestrel, comme s'il espérait qu'il répondrait à sa place. L'autre garda le silence, et l'Est dit enfin très bas.
Niel a prévu de chanter quelques airs des Six-Duchés pour les Outriliens. Je m'apprêtais à l'écouter. Je respirais profondément. Il fallait que je me rapproche de ce garçon, si je voulais tenir ma promesse envers Horty. Toutefois, je l'avais déjà écarté de moi en essayant de le forcer à rentrer chez lui. Lui tenir la bride trop serrée à présent ne m'aiderait pas à gagner sa confiance. Je déclarai donc. Les chansons des ménestrels peuvent être très instructives. Prête aussi l'oreille à ce que les Outriliens disent et chantent, et débrouille-toi pour apprendre quelques mots de leur langue. Nous parlerons plus tard de ce que tu auras retenu. Merci, fit-il d'un ton guindé. Il avait autant de mal à exprimer sa gratitude qu'à accepter mon autorité sur lui. Ce n'était pas le moment d'essayer de l'y forcer. Aussi, hochai-je la tête et le laissai-je s'en aller. À la porte, Niel m'adressa une gracieuse révérence et nos regards se croisèrent un instant. L'amicale disposition envers moi, que je lus dans le sien, m'étonna. Puis, il prit congé avec ces paroles. Il est rare d'entendre un homme d'armes louer les mérites de l'instruction, et plus encore d'en rencontrer un qui reconnaisse au ménestrel d'en être le récipient. Je vous remercie, messire. C'est moi qui vous remercie. Mon prince m'a demandé de donner une éducation à ce garçon. Peut-être pouvez-vous lui montrer qu'acquérir du savoir n'est pas obligatoirement pénible. En un clin d'œil, je pris une nouvelle décision. J'aimerais me joindre à vous, si je ne suis pas de trop. Il me fit une nouvelle révérence. J'en serai honoré. L'Est avait pris de l'avance et ne parut pas enchanté de me découvrir en compagnie du musicien. Comme tous les marins que j'ai connus dans mes pérégrinations, les Outriliens se révélèrent prêts à se jeter sur le premier divertissement qui les distrayait du quotidien monotone du bord. Ceux qui n'étaient pas de service se réunirent promptement autour de Niel. Le ménestrel disposait d'un décor qui le mettait en valeur, debout sur le pont, le vent dans les cheveux, le soleil dans le dos. Les hommes apportèrent leurs ouvrages, comme des femmes se fussent munies de leurs travaux de broderie ou de leurs tricots. L'un tressait un petit tapis à l'aide d'un vieux cordage dépenaillé, un autre taillait sans hâte un morceau de bois dur. L'attention avec laquelle ils écoutaient les ballades confirmait ce dont je me doutais. Par hasard ou non, la majorité de l'équipage de Péotre possédait une connaissance pratique de notre langue. Même ceux qui manœuvraient les voiles à proximité tendaient l'oreille. Niel les régala de plusieurs morceaux qui évoquaient la mémoire des monarques loin-voyants. Et il évita judicieusement celle qui portait sur notre antagonisme séculaire avec les îles d'outre-mer. Pour cette fois donc, je coupai à la chanson de la tour de l'île de l'Andouillé. L'Est paraissait écouter avec application, et son attention s'accrut quand le ménestrel raconta en musique une vieille fable du lignage. J'observais les matelots outriliens. Pendant la chanson, en me demandant si je verrais sur leurs traits se peindre la répulsion et la haine que manifestaient souvent les gens des Six-Duchés à l'audition de telles chansons. Mais non. Les hommes semblèrent l'accepter comme l'histoire étrange d'une magie étrangère. Quand Niel se tut, un des matelots se dressa avec un large sourire qui plissait le sanglier tatoué sur sa joue. Il avait posé le morceau de bois qu'il taillait et se passait les mains sur la poitrine et le pantalon pour se débarrasser des copeaux.
« Vous croyez cette magie puissante ?»
lança-t-il d'un ton de défi.
« J'en connais une plus puissante, et vous feriez bien de la connaître aussi, parce que vous risquez d'avoir affaire à elle. »
De son pied nu, il poussa un de ses compagnons assis sur le pont près de lui. Évidemment gêné devant le cercle d'auditeurs, l'homme tira néanmoins de sa chemise un petit sifflet en bois, pendu à son cou par un fil. Et il se mit à jouer un air simple et plaintif, tandis que l'autre entonnait, d'une voix rauque, où l'on sentait plus d'enthousiasme que de talent, une chanson qui parlait de l'homme noir d'Aslevial. Les paroles étaient en outrilien et prononcées avec l'accent particulier propre aux bardes du pays, si bien que j'avais du mal à suivre l'histoire. L'homme noir hantait l'île, et malheur à qui y abordait avec des intentions méprisables. Il était le gardien du dragon, voire peut-être le dragon sous forme humaine. Il était aussi noir que le dragon, aussi quelque chose que le dragon, fort comme le vent, et comme lui, indestructible et aussi impitoyable que la glace. Il rongeait les os du lâche, il pourfendait la chair du téméraire, il...
« Au service !»
lança brusquement Piotr dans notre cercle. L'ordre, d'une sévérité malgré tout bon enfant, nous rappelait sa fonction de capitaine autant que d'hôte à bord du navire. Le matelot cessa de beugler sa balade et tourna vers lui un regard interrogateur. Je sentis alors une tension. Le sanglier sur sa joue proclamait son appartenance aux guerriers d'Arkon sans grépée, comme la majorité des hommes d'équipage prêtés à Piotr pour l'occasion. Le Kaempra secoua légèrement la tête à l'intention du marin, en signe à la fois de réprimande et de mise en garde, et l'homme courba les épaules.
« Quel service avons-nous à remplir pendant nos heures de repos ? »
demanda-t-il pourtant avec une ombre d'insolence dans le ton. Piotr répondit avec mesure, mais son attitude disait assez qu'il ne tolérerait pas d'impudence. « Ton devoir, Rutor, consiste justement à te reposer pendant ces heures-là, afin que, quand on t'appellera au travail, tu t'y attelles frais et dispo. Va donc te coucher et laisse-moi le soin de divertir nos invités. » Derrière lui, le prince et Imbre étaient sortis de leur cabine et observaient la scène avec curiosité. Tram se tenait dans leur dos. Piotr les avait-il quittés brusquement en entendant la chanson du matelot ? Nos documents parlent-ils d'une histoire à propos de l'homme noir d'Aslevial ? Demandai-je à Devoir et à son conseiller. Il s'agirait d'un personnage qui garderait le dragon. C'est en tout cas ce que racontait la chanson que Piotr a interrompue.
Ça ne me dit rien. Je poserai la question à Imbre en privé.
Je tentai un contact direct. Imbre. Aucune réponse. Il ne tourna même pas les yeux vers moi.
Je crois qu'il a trop forcé hier.
A-t-il pris une tisane quelconque aujourd'hui ? Fis-je, pris de soupçons. Une dépense d'art comme celle du vieillard la veille aurait sans doute épuisé un novice. Or, il se montrait plein d'allant aujourd'hui. La jalousie me poignit. Usait-il d'écorce elfique, de cette même écorce elfique qu'il m'interdisait ?
Il boit une décoction répugnante, presque chaque matin. J'ignore de quoi il s'agit.
Je réduisis mes pensées au silence avant qu'elles ne pussent me trahir, car j'avais résolu de m'emparer d'une pincée des herbes d'Imbre si j'en avais l'occasion afin d'en déterminer la nature. Le vieil homme jouait trop avec sa santé. Il était capable de consumer ce qui lui restait de vie en voulant la donner à notre cause. L'occasion ne se présenta pas. Les jours suivants se déroulèrent sans incident. Les soins à Lourdes et l'instruction de l'Est prenaient tout mon temps. Les deux finirent par se fondre, d'ailleurs, car lorsque Lourdes émergea d'un de ses longs sommeils, sans force et maussade, il refusa que je m'occupe de lui. En revanche, il se déclara prêt à accepter les attentions de l'Est. L'enfant renacla, ce qui se conçoit. Soigner un malade est une tâche fastidieuse qui peut se révéler déplaisante. Il éprouvait aussi l'horreur innée de nombreux habitants des six duchés à l'égard des anormaux. Mon attitude désapprobatrice ne l'ébranla point, mais le calme avec lequel Tram acceptait les différences de Lourdes le fit peu à peu changer d'opinion. Le talent du maître de Vif à éduquer l'Est, par exemple, me donna de moi-même l'image d'un précepteur maladroit et irréfléchi. Je tenais à élever correctement l'Est, comme Burick l'avait fait pour Horty, mais j'échouais même à gagner sa confiance. Les journées peuvent paraître longues quand on se sent inutile. Je n'avais guère le loisir de m'entretenir avec Imbre ni avec le prince. À bord du navire surpeuplé, aucune circonstance ne me permettait de me trouver seul avec l'un ou l'autre, si bien que la communication se limitait à l'usage de l'art. Je m'efforçais de contacter le vieil assassin le moins possible, dans l'espoir qu'en la laissant au repos, son aptitude lui reviendrait. Le prince me transmit qu'Imbre ne savait rien d'un homme noir qui hanterait l'île d'Aslevial. Et comme Piotr maintenait toujours extrêmement occupé l'homme qui avait chanté la balade, je n'avais pas la possibilité de me renseigner auprès de lui. Coupé d'Imbre et de Devoir, rejeté par Lourdes, j'éprouvais un grand sentiment de solitude et d'incapacité à trouver quelque sérénité. Mon cœur s'émouvait sur de vieux souvenirs. Depuis mon histoire d'amour toute simple avec Molly, jusqu'à l'amitié sans entrave que j'avais partagée avec le fou. Œil de nuit aussi revenait souvent à mon esprit, car Trame et sa mouette ne se cachaient nullement tandis que le marguet de Civil suivait son compagnon partout dans le navire. J'avais perdu les attachements passionnés que j'avais formés dans ma jeunesse et perdu aussi l'entrain d'en chercher de nouveaux. Quant à Horty et à l'invitation de Burick de revenir, je mourais d'envie de l'accepter. Mais je savais que c'était une époque que je souhaitais retrouver, non un lieu. Or, ni Edda ni elle ne fait ce cadeau à personne. Quand nous pénétrâmes dans un petit port qui échancrait à peine la côte d'une île minuscule et que Péotr s'exclama de bonheur à rentrer chez lui, la jalousie m'envahit. Pram se planta devant le bastingage, à côté de moi, troublant ma superbe délectation morose. « J'ai laissé l'Est auprès de Lourd pour l'aider à mettre ses chaussures. Il est ravi de descendre à terre, même s'il refuse de l'avouer. Il n'a d'ailleurs plus vraiment le mal de mer, c'est son affection aux poumons qui l'épuise à présent, et le mal du pays aussi. » Je sais, et je ne puis rien à l'un ni à l'autre à bord de ce navire. Une fois à terre, j'espère lui trouver un logement confortable où se reposer au calme et se restaurer convenablement. Ce sont en général les meilleurs remèdes à ce genre de maux. Trame acquiesça et garda un silence amical tandis que nous approchions de la côte. Une silhouette, celle d'une jeune fille en jupe feuille morte qui se gonflait au vent, se tenait sur une avancée de terre et nous regardait venir. Des brebis et des chèvres broutaient la pâture rocailleuse qui l'entourait et les collines vallonnées derrière elle. Plus loin, vers l'intérieur, nous aperçûmes des filets de fumée qui s'élevaient de chaumières blotties les unes contre les autres parmi les vignons. Un appantement solitaire s'aventurait dans la baie étriquée pour nous accueillir. Nulle part, je ne vis signe d'une ville. Soudain, la jeune fille leva les bras et les agita à trois reprises. Je crus qu'elle nous saluait, mais peut-être faisait-elle signe en réalité à des gens dans le hameau, car peu après, un groupe descendit le sentier qui menait au rivage. Certains s'arrêtèrent sur le ponton et nous attendirent. D'autres, des enfants, se mirent à courir sur la grève en s'interpellant avec excitation. Avec une compétence teintée d'esbrouf, notre équipage amena le navire droit contre le quai. Puis, les amarres furent lancées et fixées, et nous cessâmes de bouger. En quelques instants, du moins, en eus-je l'impression, on abattit et on rangea les voiles. À mon grand étonnement, Péotr remercia d'un ton bourru les hommes du sanglier qui avaient manœuvré le bateau, et cela me rappela que nous traitions, non avec un seul clan, mais avec l'alliance de deux. À l'évidence, tant le Kaempra que les matelots estimaient le service rendu considérable, et ils y voyaient une dette éventuelle entre clans. La façon dont se passa le débarquement me confirma dans cette idée. Péotr descendit le premier, et, en posant le pied sur l'appontement, il s'inclina gravement devant les femmes venues l'attendre. Des hommes se trouvaient là aussi, mais ils se tenaient en retrait, et c'est seulement après avoir reçu un accueil chaleureux des doyennes de son clan qu'il passa derrière elles pour saluer ses frères. J'observai que peu d'entre eux avaient l'âge d'être guerriers, et que ceux qui l'avaient présentaient les cicatrices et les infirmités que l'on risque dans cette carrière. Bref, je ne vis que quelques vieux combattants et un groupe de jeunes adolescents surexcités. Je réfléchis, puis tentai de transmettre ma pensée à Imbre. Ou bien leurs hommes ne jugent pas utile de nous souhaiter la bienvenue, ou bien on nous les cache. Sa réponse n'avait guère plus de substance qu'une volute de fumée. Ou bien, ils ont été décimés lors de la guerre des pirates rouges. Certains clans ont subi de lourdes pertes. Je sentis l'effort qu'il lui coûtait de maintenir le contact avec moi. D'autres préoccupations retenaient son attention pour le moment. Par le vif, plus que par l'art, je perçus l'agitation intérieure et la déception du prince, et j'en compris aussitôt la cause. Eliania ne se trouvait pas dans le groupe venu nous accueillir. « Ne vous inquiétez pas, » lui dis-je. « Nous ne connaissons pas assez leur tradition pour savoir ce que signifie son absence. N'y voyez pas d'entrée un affront. »« M'inquiéter ? C'est à peine si je l'avais remarqué. C'est une alliance qui nous amène ici, Fitz, non une gamine et ses fredaines. » La sécheresse de sa réplique trahissait son mensonge, et je soupirais à part moi. 15 ans. Et d'un merci, plus jamais je n'aurai cet âge. Péotr avait dû mettre Imbre au courant de leur coutume, car nous demeurâmes, le vieux conseiller et tout notre groupe, debout sur le pont, jusqu'au moment où une jeune femme d'une vingtaine d'années invita d'une voix claire le fils du clan du cerf loin-voyant à quitter le navire avec les siens.
« C'est à nous, » murmura Tram. « Lest a dû préparer l'our à sortir. Allons-y, voulez-vous ? »
J'acquiesçais de la tête, puis, comme si j'en avais le droit, je demandais « Que risque vous montre-t-elle ? Aperçoit-elle des hommes armés quelque part ?» Il eut un mince sourire.
« Ne croyez-vous pas que je vous aurais prévenu dans ce cas ? Je courrais un aussi grand danger que vous. Non, elle ne voit rien de plus que ce que nous observons nous-mêmes. Un hameau paisible dans la tranquillité d'un début de journée et une vallée très fertile derrière ces collines là-bas. »
Nous joignant au reste de la troupe, nous débarquâmes, puis demeurâmes à distance respectueuse de notre prince, tandis qu'il recevait l'hospitalité de la maison maternelle et des propriétés d'Eliana Ondenoir. Je perçus un aspect rituel dans la simplicité même des formules employées. Par cet acte d'accueil et de permission de fouler leur sol, les femmes affirmaient à la fois leur possession de la terre et leur autorité sur ceux qui posaient le pied à Vuisling. Je n'en restais pas moins étonné quand elles répétèrent la même cérémonie à l'intention des membres du clan du sanglier qui descendirent à notre suite. Dans les remerciements qui s'ensuivirent, je saisis un élément qui m'avait échappé jusque-là. En acceptant l'hospitalité des femmes, ils juraient sur l'honneur de leur maison maternelle que chacun serait responsable de la conduite de tous ses camarades. On ne précisait pas la peine qui sanctionnait les infractions à ce serment. Peu après, le sens de ce rite m'apparut. Dans une fédération de pirates, il fallait un système de protection qui assure aux pilleurs l'inviolabilité de leur base en leur absence. Quelque ancienne alliance des femmes, des différents clans, devait être à l'œuvre. Et je me demandais quelle punition un homme subirait de la part de sa propre maison maternelle s'il transgressait les règles de l'hospitalité d'un autre clan. Les civilités achevées, les femmes de la maison du Narval emmenèrent le prince et sa suite. Sa garde leur emboîta le pas, puis Tram, Lest et moi-même, en compagnie de l'our, les suivîmes. Le jeune garçon marchait devant nous, tandis que le maître de Vif et moi soutenions le simple d'esprit. Derrière nous venaient les hommes du sanglier, qui parlaient de bière, de femmes, et qui échangeaient des plaisanteries sur nous quatre. Au-dessus de nous, Risque tournoyait dans le ciel limpide. Le gravier du chemin crissait sous nos pas. Contrairement à ce que j'avais imaginé, Vuisling n'était ni étendu, ni proche de la mer. Comme les matelots du sanglier nous doublaient, agacés par notre lenteur, Tram interpella l'un d'eux. Manifestement pressé de rattraper son groupe, et tout aussi évidemment peu désireux d'être vu en compagnie d'un idiot et de ceux qui en avaient la charge, il répondit laconiquement, quoiqu'avec la courtoisie habituelle que Tram paraissait susciter chez tous ceux à qui il s'adressait. Il expliqua que le mouillage, bien que bon, n'était pas excellent. Les courants faibles n'offraient guère de danger, mais quand les vents dominants se levaient, glacés, ils soufflaient assez fort pour arracher la chair des eaux. Vuisling se nichait dans un creux à l'abri de leur violence. Et en effet, alors que nous descendions la route qui menait à la ville pelotonnée dans son renfoncement, il nous sembla que l'air devenait plus tiède et moins agité. Le bourg lui-même présentait une structure étudiée. La maison maternelle, de bois et de pierre, en était le bâtiment le plus imposant et dominait comme une forteresse les chaumières et les petites maisons alentour. Un immense narval peint décorait le toit d'ardoise de l'édifice. Derrière, s'étendait un espace qui me fit songer au jardin des femmes de Castelserre. Les rues couraient en cercles concentriques tout autour, et la plupart des marchés et des demeures des marchands se situaient dans le quartier le plus proche de la route de la mer. Nous vîmes tout cela de loin, avant que les détails ne disparaissent, dissimulés par la proximité. Le groupe du prince était depuis longtemps hors de vue, mais Crible revint vers nous au petit trot et s'arrêta, légèrement essoufflé.
« Je dois vous conduire à votre logement, » expliqua-t-il.
« Nous ne sommes donc pas hébergés avec le prince ?» demandai-je troublé.
« Sa suite et lui résideront à la maison maternelle, avec son ménestrel et ses compagnons.
Un gîte est prévu pour les guerriers des clans en visite à l'extérieur de la maison forte. Les hommes des autres clans ont accès au bâtiment principal pendant la journée, mais ils n'ont pas le droit d'y passer la nuit. En conséquence, la garde ne sera pas logée avec le prince. Ça ne nous plaît pas, mais Sir Imbra a ordonné au capitaine Longmèche de se soumettre. Une maison particulière a été prévue pour Lour, et le prince désire que vous la partagiez avec lui. Crible prit une expression gênée, puis, d'une voix plus basse, comme s'il s'excusait, il ajouta « Je m'occuperai d'y faire porter votre coffre de voyage et aussi les affaires de Lour. » « Merci. » J'avais compris. La différence du compagnon du prince le rendait inacceptable comme hôte dans la maison maternelle. Ma foi, on avait au moins le bon sens de ne pas nous mêler aux gardes. Néanmoins, il commençait à devenir lassant de partager le statut de proscrit de Lour. Je n'aimais certes guère les intrigues de la cour loin-voyant, mais je me sentais mal à l'aise ainsi coupé d'imbre et de devoir. Je nous savais en danger, mais le plus grand péril est celui qu'on ne connaît pas. Et je voulais entendre ce qu'Imbre entendait, rester au courant minute par minute du déroulement des négociations. Cependant, le vieux conseiller ne pouvait exiger qu'on nous loge plus près du prince, et quelqu'un devait demeurer près de Lour, tâche pour laquelle tout me désignait. Mais la logique de l'affaire ne changeait rien au sentiment de frustration que j'éprouvais. On ne s'était pas moqué de nous. L'unique pièce de la maison de pierre était propre, bien qu'imprégnée d'une odeur de renfermé. À l'évidence, nul ne l'avait habité depuis plusieurs mois. Toutefois, on avait rempli la huche à bois et mis à notre disposition des casseroles et des ustensiles pour la cuisine. La barrique d'eau était pleine d'eau douce glacée. Nous avions une table, des chaises et un lit avec deux couvertures. Un long rectangle de soleil s'étendait par terre, tombant de la fenêtre. J'avais connu de pires séjours. Sans quasiment rien dire, Lour nous laissa l'allonger. La marche avait rendu sa respiration sifflante. Et il avait les joues rouges, non du rouge de la bonne santé, mais de celui d'un malade qui a présumé de ses forces. Je lui ôtai ses chaussures, puis rabattis les couvertures sur lui. Les nuits devaient être froides sur l'île, malgré l'été. Peut-être même les courtes pointes ne suffiraient-elles pas à le réchauffer. « Avez-vous encore besoin d'aide ?» me demanda Tram. À la porte, l'air impatient, l'Est dévorait des yeux la maison maternelle deux rues plus loin. « De votre part, non, mais j'aurai besoin de l'Est un moment. » Le regard atterré du jeune garçon ne me surprit pas et n'ébranla pas ma résolution. Je pris quelques pièces dans ma bourse. « Va au marché. J'ignore ce que tu pourras y trouver. Sois poli, mais rapporte-nous de quoi manger. De la viande et des légumes pour préparer de la soupe, du pain frais, si cela existe ici, des fruits, du fromage, du poisson, bref, ce que tu pourras acheter avec ce que je te donne. » À en juger par son expression, l'inquiétude de s'aventurer en terrain inconnu le disputait en lui au plaisir de découvrir un nouveau pays. Je déposai l'argent dans sa main, en espérant que les Outriliens accepteraient la monnaie des six duchés. Ensuite, ajoutai-je, et il fit la grimace, retourne au bateau. Crible s'occupe de nos coffres, mais je veux que tu dévalises les couchettes du bord pour nous faire deux paillasses, pour toi et moi, et fournir des couvertures en plus à Lour.
Mais je dois loger à la maison maternelle avec le prince, Tram et tous les...
Je secouai la tête et sa voix mourut dans un murmure déçu. J'aurai besoin de toi ici, Lest. Il lança un regard à Tram, comme s'il implorait son appui. Le maître de Vif garda une expression calme et neutre.
« Êtes-vous sûr que je ne peux vous aider en rien ?» répéta-t-il.
À vrai dire, et je me sentis soudain pétrifié devant la difficulté de lui réclamer ce service. « Si cela ne vous dérange pas de revenir plus tard, j'apprécierais de disposer de quelques heures de loisirs, à moins que le prince ne requière vos services.
« Vous pouvez compter sur moi. » Merci de me l'avoir demandé. »
Cette dernière phrase n'était pas une simple formule de politesse. Elle venait du fond du cœur. Je me tus un moment pour réfléchir. Il me complimentait d'être enfin parvenu à le prier de me rendre service. Nos regards se croisèrent soudain et je m'aperçus alors que mon silence s'éternisait. Pourtant, son visage n'exprimait, comme toujours, que le calme et la patience. Encore une fois, j'eus l'impression qu'il me guettait, non comme un chasseur guette une proie, mais comme un dresseur observe un animal farouche, qu'il veut apprivoiser. « Merci, » dis-je non sans mal.
J'accompagnerai peut-être l'Est au marché, car je suis aussi curieux que lui de visiter la ville, mais je ne traînerai pas, je vous le promets.
Croyez-vous qu'une pâtisserie tenterait lourd si jamais nous tombions sur une boulangerie ?
Oui.
Le petit homme s'exprimait d'une voix mourante, mais cette manifestation d'intérêt me rendit courage.
Et aussi du fromage,
ajouta-t-il d'un ton presque implorant. Je modifiai les priorités de ma liste de courses. Tâchez donc de trouver d'abord des pâtisseries et du fromage, dis-je, et je regardais lourd avec un sourire. Mais il détourna les yeux. Il me refusait son pardon. Je le savais, je devrais lui imposer encore deux traversées au moins, pour retourner à Zilig, puis pour gagner à Slevial. Quant au voyage qui nous ramènerait chez nous, je préférais ne pas y songer. Il me semblait épouvantablement lointain. Lest et Tram s'en allèrent en bavardant gaiement. À dire le vrai, j'étais soulagé de les savoir ensemble. Un jeune garçon dans une ville étrangère et inconnue pouvait facilement insulter les gens sans le vouloir ou se retrouver en danger. Pourtant, c'est avec une impression d'abandon que je les regardais s'éloigner. La tentation de m'apitoyer sur mon sort m'attirait comme un abîme, et je m'en écartais en tournant mes pensées vers les êtres chers à mon cœur. Je m'efforçais de ne pas m'inquiéter pour Heure ni le fou. Heure était un garçon raisonnable, je devais lui faire confiance. Quant au fou, il menait sa vie, ou plutôt ses vies, depuis des années sans aide de ma part. Pourtant, le savoir quelque part dans les six duchés, furieux contre moi, me mettait mal à l'aise. Je m'aperçus soudain que je suivais de l'index les empreintes argentées que son contact d'art avait laissées sur mon poignet. Bien que je n'eusse rien perçu de lui, je croisai mes mains dans mon dos et me demandai à nouveau ce qu'il avait dit à Burick, s'il l'avait vu. Vaine rumination, je m'en rendais compte, mais je n'avais guère d'autres sujets d'occupation. Sous le regard de Lourd, je fis le tour de la pièce d'un pas désœuvré. Je lui offris une louche d'eau froide tirée de la barrique, mais il la refusa. Je bus et sentis la différence de l'île dans le goût de l'eau, douceâtre et vaguement croupie, sans doute celle d'un étang. Je décidai d'allumer un petit feu dans l'âtre au cas où Tram et Lest rapporteraient de la viande. Le temps passait avec lenteur. Crible passa en compagnie d'un autre garde déposer nos affaires. Je pris des herbes à tisane dans mon coffre, remplis la lourde bouilloire et la mis à chauffer dans la cheminée, davantage pour m'occuper que par envie d'une infusion. Je mélangeai des plantes aux vertus apaisantes, camomille, fenouil et racines de framboisier. Lourd m'observait d'un air méfiant quand je les ébouillantais, mais je me servis la première tasse et m'installai sur une chaise près de la fenêtre et regardai les moutons paître sur le versant verdoyant qui s'élevait derrière le bourg. Je bus ma tisane à petite gorgée, en tentant de ressentir la satisfaction que je tirais naguère de la solitude et du calme. Je proposai la seconde tasse à Lourd qui l'accepta. Peut-être, me voyant boire la première, avait-il conclu que je ne cherchais pas à le droguer ni à l'empoisonner. Ce fut du moins ce que je me dis avec découragement. Tram et Lest revinrent, les bras chargés de paquets. Le garçon, les joues rosies par la marche et l'air frais. Lourd se redressa lentement, pour mieux voir ce qu'il rapportait.
Vous avez trouvé de la tarte aux fraises et du fromage jaune ?
Demanda-t-il plein d'espoir.
Ma foi non, mais regarde ce que nous avons acheté, répondit Tram en déposant ses emplettes sur la table. Des bâtons de poisson rouge fumé, à la fois sucrés et salés, des petits pains saupoudrés de graines, et tiens, un panier plein de baies pour toi. Je n'en ai jamais vu de pareil. Les femmes les appellent « sourisettes » parce que les souris embourrent leur nid en prévision de l'hiver. Elles ont un goût un peu âcre, mais nous avons pris du fromage de chèvre pour les accompagner. Ces drôles de raves oranges, on nous a indiqué de les faire cuire sous la cendre et d'en manger la chair avec du sel. Et enfin ces pâtisseries. Elles ont un peu refroidi, mais elles sentent toujours bon.
Elles avaient à peu près la taille d'un poing, et Tram les tira d'un sac fait d'herbes tissées et tapissées de grandes frondes d'algues. Comme il les disposait sur la table, une odeur de marée parvint à mes narines. Les petits gâteaux étaient fourrés de morceaux de poisson blanc dans une sauce épaisse et grasse. Je me réjouis en voyant l'ours quitter son lit et s'approcher de la table d'un pas mal assuré. Il en dévora un avec avidité, s'interrompit à cause d'une quinte de toux, puis en mangea un second avec plus de retenue et le fit descendre avec une tasse de tisane. Il se mit à tousser si violemment et si longtemps après avoir bu que je craignis qu'il ne s'étrangle. Mais il reprit enfin son souffle et nous regarda, les yeux larmoyants.
« Je suis fatigué, »
dit-il d'une voix chevrotante. Et à peine laisse l'eut-il aidé à regagner son lit qu'il s'endormit. Le jeune garçon avait égayé notre repas en discutant de la ville avec Tram. J'avais gardé le silence et l'avais écouté. Il avait l'œil vif et l'esprit curieux. Apparemment, les vendeurs s'étaient montrés relativement amicaux et ouverts une fois qu'ils avaient vu son argent. Je pensais aussi que les questions bon enfant de Tram avaient dû jouer en leur faveur. Une femme leur avait même révélé qu'il fallait profiter de la marée basse du matin pour ramasser les petites palourdes, celles qui avaient le goût le plus fin. Le maître de Vif enchaîna sur une anecdote de sa jeunesse où sa mère l'avait emmené récolter ces mêmes mollusques, puis sur d'autres histoires de son enfance. Leste et moi étions suspendus à ses lèvres. Nous partageâmes une nouvelle chope de tisane et, alors que nous nous apprêtions à une après-midi d'agréable bavardage, Crible se présenta à la porte.
Sire Humbre m'envoie vous informer que vous devez monter à la maison maternelle pour une cérémonie d'accueil, annonça-t-il.
Eh bien, il faut que vous y alliez, dis-je avec réticence à mes compagnons.
Toi aussi, reprit Crible. Moi, je reste avec l'idiot.
Je le regardai brusquement.
Lourd, murmurai-je. Il s'appelle Lourd.
Jamais encore je n'avais adressé de réprimande au jeune garde. Il me dévisagea, et je n'aurais su dire s'il était peiné ou vexé.
Lourd, répéta-t-il, je reste avec Lourd. Je ne voulais pas te blesser, tu le sais bien, Tom.
Je le sais, mais Lourd, lui, ça le blesse.
Ah !
Il se tourna vers le petit homme endormi, comme étonné d'apprendre qu'il éprouvait des sentiments.
Ah bon ?
J'eus pitié de lui. Il y a de quoi manger sur la table, et de l'eau chaude si tu veux te préparer de la tisane. Il hocha la tête, et je sentis que nous avions fait la paix. Je me lissai les cheveux et enfilai une chemise propre, puis entrepris de peigner l'est, malgré sa répugnance, et m'épouvantai des nœuds que je trouvais dans ses cheveux.
Il te faut les démêler tous les matins. Ton père ne te laisserait sûrement pas sortir avec l'air d'un poney de montagne à demi hirsute.
Il leva soudain les yeux vers moi.
C'est l'expression qu'il emploie toujours ?
S'exclama-t-il. Je rattrapai mon faux pas tant bien que mal.
Elle est courante en serre, mon garçon.
Voyons, quelle allure tu as maintenant ? Bien, ça ira. Tu pourrais aussi te laver un peu plus souvent. Ça ne te ferait pas de mal, mais le temps manque pour l'instant. Allons-y.
J'éprouvai un élan de compassion pour Crible quand nous le laissâmes assis tout seul à la table.